Prince en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Science en liberté. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette Terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature, et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Bonjour à vous, je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Pendant des millénaires, les océans, les déserts et les montagnes ont constitué des obstacles majeurs, des barrières infranchissables pour des millions d'espèces, chacune s'isolant des autres. Alors chaque écosystème s'est forgé dans un confinement relatif, séparant les espèces les unes d'avec les autres et formant des communautés originales. Il y avait la faune d'Amérique, la flore d'Asie, et les organismes européens ne les connaissaient pas. Mais voilà aujourd'hui que des animaux inattendus, des plantes étrangères, apparaissent ça et là dans des lieux qu'elles n'avaient aucune chance de jamais coloniser. Des escargots asiatiques pillent les moules bretonnes, des abeilles africaines saccagent des fleurs brésiliennes, un crapaud de Colombie dévaste les forêts australiennes, des visons américains ravagent des truites auvergnates et des perches exotiques détruisent les grands lacs. À la manière des grandes invasions barbares, des phalanges d'espèces étrangères immigrent et accaparent nos contrées. Mais que font tous ces intrus dans nos paysages ? Des intrus, est-ce assez dire ? Ils n'y sont pas toujours venus tout seuls, car on a invité beaucoup d'espèces à s'installer avant de les traiter d'indésirables. Quant aux autres, nous allons voir que ces envahisseurs peuvent aussi nous enseigner bien des choses sur l'évolution et sur l'état de notre planète après le capitalisme. Les gestionnaires des milieux naturels nous alertent. Attention, voilà des invasions biologiques nouvelles. Des espèces invasives prolifèrent et menacent notre environnement. La notion d'invasion biologique a été formulée par Williamson en 1996 et définit une invasion caractérisée par un élargissement rapide et durable de l'aire de répartition d'une espèce, souvent dans des zones géographiques où elle était inconnue. Mais cette définition est bien large. La diversité de la Terre est en danger, menacée d'une disparition par toutes les perturbations engendrées par les modifications des milieux. Mais ces nouveaux venus paraissent bien capables de porter le coup de grâce aux précaires équilibres de nos écosystèmes. La faute à quoi ? La faute à qui ? N'étions-nous pas heureux d'acclimater des arbres venus d'ailleurs ? D'importer des oiseaux rares et des fleurs étranges dans nos jardins ? Pourquoi nous menacerait-elle ? Quelles sont-elles, ces espèces perverses et prolifiques ? Pourquoi viennent-elles envahir nos contrées ? Et qui donc est responsable ?
À droite, certains participants affichent de manière tranchée leurs convictions sur ce débat.
Je pense qu'il est plus qu'utile, qu'il est même indispensable. Et qu'il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer.
Par qui ? Par quoi ?
Par qui, par quoi ? Il y a déjà 10 millions. Hein ? Mais il faut bien réfléchir. 10 millions que l'on paye à rien foutre.
Ça jase, on a fait le hella dans le village. Que vois-je, la Gaule est envahie par les sauvages. Outrage, on a fait criser tout le voisinage. En sortant les derbogas dans la salle de mariage, ils ont la rage de voir nos tronches dans les parages. On a assali la moquette, les murs et le carrelage. Semé la zizanie, foutu le feu à leur étage. Salopé leur paysage, on leur a fait un petit carnage. Sacrilège, y'a du hlel à la cantine, la shorba dans la cuisine, des hijabs à la piscine et des jolis tapis de prière dans les usines. Ils ont tellement les nerfs qu'ils sont accros à la spirale. Mais là c'est trop tard, on a passé la douane, on a passé la frontière. Reprends à Doliprane, c'est la chanson française qui leur fait mal au crâne. Tu m'étonnes qu'ils supportent plus nos coins. On a saboté la langue de Molière, démasqué le racisme de Voltaire. On a planté la tente, maintenant faudra s'y faire. Les nègres vous emmerdent comme dirait Aimé Césaire. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame à leur grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame à leur grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine. Ils voulaient du folklore et de la danse du vent, de l'exotisme servi avec un thé à la menthe. Des petites pâtisseries, des fatmas obéissantes, bien dociles pour amasser, nettoyer, torcher leur viande. Mais que dalle, le projet a capoté, le plan a mal tourné. Laisse-moi jubiler, ils sont tout pâles. On a cassé le gouvernail, aïe aïe aïe. On leur a foutu la pagaille. Si tu croyais qu'on allait dire merci, merci la France, merci Sarkozy. Toujours poli, wallah je suis intégré. Tu peux toujours courir pour faire de moi un blé, oui oui. T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame à leur grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame à leur grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
Sympa cette musique,
merci, merci.
Le métissage, le brassage des cultures. Ces jeunes qui expriment leur colère, j'adore.
Ouais, c'est mignon, un petit beurre qui rappe sur ta musette. Vas-y, MC Cosette, fais-nous des chansonnettes. Un poil contestataire, à la bonne franquette. Symbole d'intégration, c'est du Zola en casquette. Vas-y, fais-nous chialer sur un air d'accordéon. Raconte-nous tes petites histoires d'enfants de l'immigration. Raconte-nous les contrôles, les discriminations. Allez, réveille en nous un peu d'indignation.
D'habitude, j'aime pas le rap.
Ah bon?
Mais ce que j'aime chez vous, c'est que vous ne tombez ni dans la victimisation, ni dans les clichés. Et puis, quelle maîtrise de la langue française!
Va te faire mettre avec ta langue française. Des compliments, pour moi c'est de la foutaise. Que du blabla qui me fait perdre mon temps. Alors emballe tes bons points et tes encouragements dans ma zone d'expression populaire. Y'a que des petites gens et des bougnoules en colère. Des râleurs, des cassos, des criseurs et des brailleurs. Tu marches avec nous ou tu vas voir ailleurs.
T'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame à leur grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame à leur grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame à leur grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine, t'as vu le bazar, t'as vu la gueule du patrimoine. On a foutu le bordel avec nos tronches de polygame. Ça chasse, y'a madame à leur grande dame. T'as vu la gueule du patrimoine.
C'était La Gueule du Patrimoine, ZEP.
Bonjour à vous, intrépides auditrices et curieux auditeurs. Je suis Thierry Laudet et je suis avec Siona aujourd'hui.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
En arrivant sur l'île des Galapagos, le voyageur intrépide devrait s'étonner de voir des iguanes marins. Voilà des reptiles qui partout sont terrestres et qui ici occupent le rivage de cet archipel isolé, en plein milieu du Pacifique. Comment sont-ils venus là, ces iguanes ? Eh bien, ils ont voyagé tout seuls. Des espèces qui s'implantaient ailleurs que dans leur aire de répartition naturelle, cela a presque toujours existé sur cette planète, et on appelle cela la forésie. C'est l'art des espèces de vagabonder en s'accrochant sur d'autres espèces plus mobiles.
C'est un terme très poétique parmi les scientifiques.
En effet, voilà une belle poésie. Des insectes voyagent dans la fourrure des rennes, des araignées sont transportées par le plumage des oiseaux, et même des lézards peuvent traverser des océans accrochés à des petits morceaux de bois flottants. Beaucoup de petites espèces sont capables de forésie, et donc elles sont aptes à parcourir le monde en se dissimulant sur le corps d'autres animaux.
Ah oui, quelque part, ce sont des passagers clandestins ?
Voilà. Il suffit d'être présent à des lieux à la ronde pour pouvoir avancer quelque part. Et c'est comme cela qu'on va réussir à avoir des espèces dites invasives. On parle d'installation spontanée pour les espèces qui sont arrivées spontanément par leurs propres moyens dans une zone biogéographique où elles étaient absentes. Ces passagers sont venus seuls et font donc partie de la dynamique naturelle des espèces et de cette dynamique évolutive. Mais l'homme est depuis longtemps la cause d'introduction volontaire et involontaire d'espèces allochtones, c'est-à-dire qui viennent d'ailleurs. Il y a alors introduction d'espèces d'origines étrangères sur des territoires nouveaux.
Alors, c'est-à-dire, tu peux préciser, volontaire ?
En effet, d'abord, il y a eu des introductions volontaires. C'est par exemple la recherche de l'acclimatation d'autres espèces qui a entraîné la présence d'espèces inédites. Toute l'agriculture est fondée sur l'obtention d'espèces qui vont être aptes à se développer dans des lieux qu'elles ne connaissaient pas avant. Ainsi, les céréales se sont mises en place. L'agriculture, l'élevage, tout ça, s'est vraiment généralement constitué de manière volontaire. Et les animaux ont fini par accompagner cela, les chats par exemple.
Et à côté, nous avons un autre type d'introduction qu'on dira involontaire, c'est cela ?
Oui. Il y a en effet toute une série de passagers clandestins. Là, ce sont bien des introductions involontaire. L'introduction d'une espèce nouvelle dans un écosystème étranger à celle-ci peut se faire de manière totalement accidentelle ou involontaire. Généralement, c'est quand même toujours lié aux activités humaines. N'importe quel organisme introduit, exotique, allochtone, c'est-à-dire un organisme non natif, non indigène, peut donc produire une invasion biologique. Il faut attendre 1958 pour qu'un ouvrage soit spécifiquement consacré à ces espèces dites invasives, avec le livre « L'écologie des invasions animales et végétales » par le chercheur britannique Charles Elton. Depuis, l'ampleur du phénomène des invasions biologiques n'a pas cessé d'augmenter.
C'est-à-dire, ça représente combien d'espèces ?
Alors, on peut considérer qu'entre 1800 et 2010, il y a plus de 3000 espèces qui se sont installées en Europe, montrant l'importance de l'augmentation des invasions biologiques. Mais en France, on est probablement maintenant déjà à plus de 2000 espèces.
Et quel type d'espèces, en fait, sont concernées par cela ?
Toutes sortes d'espèces venant de toutes sortes d'endroits. Frelons asiatiques, ragondins, moules rayées, bernaches du Canada, crépidules, jussies, herbes de la pampa, jacinthes d'eau, visons américains, écrevisses de Louisiane. Bref, les aliens sont parmi nous.
Mais quel danger représentent-ils ? C'est-à-dire ?
Alors, il s'agit d'envahisseurs, apparemment, mais est-ce qu'il faut vraiment redouter cette présence ? C'est ce que nous allons essayer d'analyser aujourd'hui. Alors, apparemment, ce sont comme des barbares, des étrangers, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait redouter la présence de ces espèces ? En fait, une espèce invasive n'existe pas en soi, car l'espèce est normale dans son environnement propre et elle n'est pas envahissante. Ce sont des populations de cette espèce, des individus regroupés en populations, qui vont s'installer en dehors de l'aire de répartition naturelle, et ces populations peuvent alors montrer une dynamique d'invasion. On devrait donc employer le terme de population invasive.
C'est-à-dire, tu peux développer la...
Eh bien, une simple population. Oui. Une invasion biologique peut débuter quand il y a des populations d'un organisme qui vit normalement et qui vont atteindre un écosystème qui est situé totalement en dehors de leur aire de répartition naturelle et qu'elles n'auraient pas pu atteindre par leurs propres moyens.
Oui, d'accord.
Et donc, on va qualifier d'invasion biologique, ce qui se traduit généralement par une explosion démographique de cette nouvelle espèce dans son écosystème. Mais ce n'est pas toujours une explosion démographique, on va reparler de cette dynamique invasive tout à l'heure. En tout cas, tout ça, ça entraîne une dispersion forte et une colonisation des milieux à partir d'un simple petit point d'introduction.
Come in.
Écoutions Arlo Guthrie, Coming to Los Angeles. Nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité. Donc Thierry, tu peux poursuivre un peu ce que tu évoquais et surtout la manière dont se passe cette entre guillemets dynamique invasive.
Car nous voilà toujours en présence de nos envahisseurs, toute cette faune et cette flore qui petit à petit s'installe dans d'autres pays. Alors en moyenne, il y a 19 espèces d'invertébrés exotiques supplémentaires qui sont introduites chaque année en Europe. Et ces 19 espèces développent des populations viables ou invasives en Europe chaque année.
Mais ça paraît beaucoup, 19 en moyenne.
Ah, c'est une moyenne qui est même très faible proportionnellement à ce que l'on sait. On sait que dans le moindre bateau, on peut avoir beaucoup plus que 19 espèces d'invertébrés. Hein. C'est le chiffre moyen parce que le calcul est fait sur l'ensemble des ports.
Étonnant.
En tout cas, l'introduction d'une population exotique dans un nouvel écosystème, son établissement puis son expansion vont être caractéristiques de ce qu'on appelle l'invasion biologique et donc de la dynamique invasive. Pourquoi dynamique invasive ? Parce que toutes les espèces introduites ne vont pas devenir forcément invasives. Alors c'est Williamson, au milieu des années 90, qui a estimé qu'environ 10% des espèces introduites hors de leur milieu survivent et que parmi celles-ci, seulement 10% vont pulluler ou vont générer ce qu'il a appelé être des perturbations majeures.
Ce qui veut dire qu'il y a des espèces qui partent, comme ça, qui peuvent s'installer. Ouais. Mais à côté, finalement, déjà, il y en a peu qui réussissent à s'installer.
Tout à 10%, fait. Tout à fait. Il y a beaucoup d'espèces qui arrivent. Et donc, il n'y a qu'une ou deux de ces espèces à chaque fois qui pourront réellement rester. Et parmi celles qui vont rester, il n'y en a encore que 10% qui vont générer des perturbations. Mais il faut quand même néanmoins dire que ce taux a été mesuré de manière purement empirique et qu'en général, il sous-estime la réalité. En tout cas, c'est ce que Wilson disait dès 1993. Car certaines espèces vont nécessiter un temps important avant de constituer des populations qui vont être mobiles et avant qu'on voit apparaître tous les impacts écologiques. De plus, cette cause et ses impacts peuvent aussi ne pas être immédiatement visibles. Ou alors on peut les confondre avec d'autres causes.
C'est-à-dire, quels effets ?
Eh bien, il va y avoir plusieurs effets possibles, bien sûr. Et puis les effets peuvent aussi s'affaiblir avec le temps. Ah, donc, on va avoir par exemple une première période, ce qu'on appelle une dynamique de prolifération brève, qui peut alors conduire à une installation beaucoup plus modérée dans l'environnement.
Alors, ça se passe concrètement comment ?
Eh bien, en fait, il y a plusieurs étapes. Et à chaque fois, à chaque étape, il y a un échec, évidemment, qui peut compromettre totalement l'installation d'espèces. Et donc, finalement, on n'aura pas d'invasion, ça va tout de suite juguler l'invasion biologique. Mais si chaque étape réussit, eh bien, on va passer à la suivante. Alors, la première de ces étapes, bien sûr, c'est l'introduction d'individus d'une espèce exotique. Bon, par exemple, on a noté récemment l'arrivée de coatis en Aquitaine.
De coatis ? Voilà, c'est étonnant, parce que c'est grand comme enfin, comme.
Ah oui, c'est une espèce qui a la taille à peu près du raton laveur. Hein. C'est une petite espèce de carnivore d'Amérique du Sud. Et là, on ne sait pas combien d'individus vont faire souche ou ne feront pas souche. Peut-être qu'il ne se passera rien. Pour l'instant, c'est juste des individus qui sont arrivés. Selon l'espèce, il faut parfois plusieurs individus pour qu'il y ait une possibilité d'introduction réelle. Et donc, il faut généralement une répétition, une réitération de l'introduction. Par exemple, si on prend un autre carnivore, le petit wison américain. Alors, le wison américain, il était introduit à la suite des élevages pelletiers. Ces élevages à fourrure ont été installés en général près des ruisseaux. Dans 90% des cas, c'était en Bretagne. Et ces élevages ont souvent connu des aléas climatiques ou des aléas économiques.
Des wisons américains bretons, alors ?
Voilà, c'est des wisons américains bretons, des cousins qui viennent de loin, en conséquence. Là, à partir de ces aléas climatiques et économiques, il y a eu des évasions, et ces évasions récurrentes ont permis progressivement que se mettent en place des petits noyaux de population. Mais nombre de wisons ne pouvaient pas survivre, tout simplement à cause de leur propre état, de leur propre physionomie, de leur propre génétique. Car les éleveurs qui cherchaient à fabriquer de la fourrure avec ces wisons, ont obtenu des pelages colorés en sélectionnant des animaux, et la plupart des mutations de couleur n'entraînaient pas nécessairement des avantages pour les animaux.
C'est-à-dire ?
Par exemple, la couleur grise qui est souvent recherchée pour les wisons américains, ça entraîne la surdité des animaux et un handicap olfactif. Alors pour des carnivores, c'est évidemment un énorme handicap qui va les rendre incapables de survivre dans la nature. Pourtant, certains individus ont réussi à se reproduire certaines années favorables, et en se croisant à nouveau, ont retrouvé un patrimoine et génétique plus sain, et ont pu obtenir des portées d'individus qui étaient capables de s'installer dans la nature.
En gros, c'est parce que les populations se reproduisent et font des petits qui, quelque part, s'adaptent à leur nouvel environnement, qu'on peut considérer qu'ils deviennent vraiment installés et invasifs.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que les individus vont se reproduire. À partir du moment où cette reproduction fonctionne, on va retrouver petit à petit des bases génétiques qui vont être adaptées à ce milieu nouveau, comme par exemple ici la Bretagne. Alors, c'est pas gagné, parce que ça dépend évidemment du patrimoine génétique de départ. Les animaux peuvent pas inventer des choses nouvelles, mais ils peuvent évacuer tous les handicaps qu'ils avaient auparavant pour reconstruire petit à petit des populations fiables.
Ça fait bizarre que tu dises ils ont une action sur le fait de pouvoir ou pas retenir leur handicap.
Alors là, c'est un autre débat. Est-ce que les individus handicapés vont être attractifs ou pas pour d'autres, pour la reproduction ? On reparlera de tout ça pour la reproduction, car en effet, les choses sont relativement complexes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a donc fallu des lâchers récurrents. Ces lâchers n'ont pas toujours été volontaires. Par exemple, il y a eu des faillites ou encore il y a eu des guerres. Hein, la guerre 14-18, par exemple, a conduit les éleveurs à ouvrir les cages. Mais ça n'a pas été très grave à cette époque-là. C'est surtout après les années 50. Et il y a des centaines d'individus qui ont été libérés dans la nature. Par exemple, en 1987, une seule tempête en Bretagne a entraîné l'évasion de plus de 20 000 wisons.
Là, c'est important.
Alors, ils se sont échappés, ces 20 000 animaux, ils se sont installés sur les rivières bretonnes, et du coup, ils ont donné le coup de grâce à la présence du wison d'Europe. Enfin, on va reparler de tout ça. Oui. Pour donner une petite idée, 20 000 wisons, pour ce seul jour d'évasion, ça correspond à la totalité de tout ce qu'il peut y avoir, comme le petit carnivore le plus commun qui est la fouine. Il n'y en a probablement pas plus de 20 000 en Bretagne. Mm-hmm. Donc là, 20 à 25 000 wisons d'un seul coup, c'est évidemment un impact considérable. Ça, c'était pour l'introduction.
La première étape. Voilà. Alors, tu disais dynamique.
Voilà, donc première étape, les individus s'évadent, s'installent, forment des petits noyaux. Il y a donc, à partir de là, naturalisation. Ce sont les individus introduits qui vont s'adapter à ce nouvel environnement. Petit à petit, ils vont trouver une niche, en quelque sorte. Les premières reproductions vont commencer maintenant à devenir beaucoup plus récurrentes. On va commencer à avoir des individus qui vont mieux se comprendre. On va plus être dans l'aléa et dans le hasard. Les individus vont commencer à organiser des vraies petites populations. Cette naturalisation peut conduire à des installations d'animaux sans grand danger. Il y a aussi des animaux beaucoup plus dangereux. Actuellement, par exemple, on trouve des crapauds xénopes qui commencent à s'installer dans les rivières au sud de la Loire.
Tu peux dire à quoi ça ressemble, des crapauds xénopes ?
Alors, le xénope, c'est un crapaud aquatique qui vient d'un peu partout et qui a été pas mal coté parce qu'il était utilisé en physiologie. Et là, on sait exactement d'où il vient. C'est-à-dire qu'il s'est échappé de laboratoire du CNRS. Plus exactement, il a presque été relâché après certains travaux du CNRS. Et ce crapaud, qui est très aquatique, a trouvé là une place totalement libre et il commence à coloniser. Alors, ça ne veut pas dire qu'il sera invasif. Ça veut dire que pour l'instant, il y a naturalisation de ces crapauds. Et comme il mange à peu près tout ce qu'il trouve, évidemment, pour l'instant, on a quand même une étape importante qui correspond.
Mais il est plus grand que notre crapaud local ?
Non, il est plus petit que le crapaud local, mais c'est le seul qui soit purement aquatique. Et donc, il consomme une grande partie de la faune aquatique. Donc, on peut supposer qu'il va avoir un impact qui n'est pas négligeable. Mais pour l'instant, ce n'est que de la naturalisation. La troisième étape, qui va être bien plus grave dans la dynamique invasive, c'est évidemment celle dont tout le monde parle, l'étape d'expansion. D'accord. Alors, quand la reproduction réussit bien, ben, ça devient très vite prolifique, puisque les animaux, maintenant, vont être des animaux qui sont parfaitement adaptés à leur nouvel environnement. Et donc, du coup, la population va connaître des grandes phases de colonisation nouvelle. On parle souvent d'explosion démographique. Et là, la répartition géographique est très étendue. En quelque sorte, l'espèce se trouve en face de niches écologiques totalement libres, d'espaces totalement libres, et du coup, il sait se reproduire. Donc, il va coloniser très rapidement. La jussie, par exemple, est une plante qui va se reproduire par simple multiplication végétative. C'est le principe du bouturage. Et donc la jussie, bah, elle a vu sa zone de répartition s'accroître à très très grande vitesse. C'est une plante qui est originaire d'Amérique du Sud. Elle a été introduite au départ pour de la qualité ornementale dans des bassins d'agrément. Hein, c'est des gens qui ont fait ça depuis plus d'un siècle. Et puis jusqu'à présent, ça posait pas trop de problèmes. En gros, on a observé la jussie à Montpellier dans les années 1820-1830. Et puis elle est arrivée petit à petit à Bayonne. Et maintenant, l'expansion s'est tellement poursuivie qu'on la trouve ici, sur Angers et au nord de la Loire. Alors évidemment, tout ça, ça va entraîner des phénomènes qui peuvent être gravissimes. Mais on en reparlera plutôt tout à l'heure. Mais déjà, dans un premier temps, même lorsqu'une espèce étrangère s'installe, elle modifie évidemment déjà la biodiversité, tout simplement par sa présence. L'installation d'une espèce étrangère pose donc un véritable problème qu'on peut appeler de pollution génétique. Car cette espèce introduite n'a rien à faire dans le nouvel écosystème. Et sa présence au sein de la faune et de la flore va forcément venir perturber toutes les interactions. Donc ça, c'est le premier point. L'espèce n'a rien à voir là. Mais en plus, deuxième point, il peut y avoir aussi des événements d'hybridation qui vont faire passer des morceaux de son génome à travers tout un ensemble d'événements, et ce génome va se retrouver à polluer le patrimoine génétique d'espèces qui, elles, sont autochtones. Par exemple, on a les grenouilles de France, les petites grenouilles vertes, qui possèdent aujourd'hui des gènes de grenouilles turques ou de gènes de grenouilles indiennes. On a importé des grenouilles...
C'est des phénomènes d'immigration, enfin de mélange des races.
Des grenouilles qui sont arrivées en fait principalement pour des élevages de grenouilles qu'on a revendues, enfin que les vendeurs, les marchands ont revendu un peu partout. Et ces grenouilles ont été installées dans des bassins. Elles ont trouvé des grenouilles européennes et les gènes sont passés d'une espèce à l'autre. C'était souvent des espèces très très proches. Vous savez qu'en France, on a une grosse consommation aussi de grenouilles et beaucoup de ces grenouilles intervenaient au départ vivantes en France.
Quand tu dis gènes, on sautait comme ça, c'est tout simplement qu'il y a une reproduction entre deux espèces différentes.
Ici, c'est des hybridations, tout à fait. C'est des mécanismes d'hybridation, c'est-à-dire que les grenouilles vertes se sont reproduites avec ces grenouilles turques ou indiennes, ou avec des espèces qui avaient déjà commencé leur reproduction, et ces échanges l'ont conduit évidemment à avoir un patrimoine génétique qui ne va pas leur conférer les mêmes adaptations dans les milieux, mais qui est capable parfois de résister. Et tous ces gènes nouveaux vont perturber la reproduction des animaux autochtones. Par exemple, on peut relever avec l'analyse de l'ADN mitochondrial des populations de putois d'Europe qu'elles sont contaminées par les gènes du furet domestique. Le furet domestique a été pas mal relâché. Il y a aussi des animaux qui ont été présents dans la nature parce que les chasseurs les ont oubliés ou parce qu'ils ne sont pas rentrés à la maison. Et ces furets se sont reproduits en partie avec le putois. En Grande-Bretagne, par exemple, 85% des populations anglaises de putois sont contaminées par les gènes du furet domestique. Autant dire que le putois d'Europe a quasiment disparu, bien que ça soit passé totalement inaperçu, puisqu'on peut en voir des putois, mais en fait, ils sont contaminés par les gènes du furet. Mais c'est, même s'il n'y a pas des introgressions génétiques, s'il n'y a pas des passages de gènes comme ça, la présence d'une espèce déjà génétiquement différente, ça va modifier la structure des faunes. Par exemple, le castor américain s'était implanté sur la Loire et il a pris la place pendant un temps du castor européen.
Mais par contre, il n'y est plus.
Il n'y est plus parce qu'on l'a enlevé. C'est-à-dire que si on voulait favoriser la dynamique de retour du castor européen, puisque le castor européen a été réintroduit sur la Loire, à Blois, etc., et s'est installé, tu connais bien l'espace, puisque toi-même, tu as travaillé sur le castor pendant quelques années, eh bien, le castor n'aurait jamais pu prendre cette place-là si le castor américain était resté. Or, le castor américain était une espèce qui plaisait beaucoup aux gens. On pouvait aller le voir le dimanche, il mangeait les arbres, il était très visible, il ne se cachait pas du tout. Et donc, les gens ont eu du temps et ont eu du mal à comprendre pourquoi on enlevait ce magnifique animal sous prétexte de la présence du castor européen qui, lui, en général, est discret et qu'on voit beaucoup moins.
Parce qu'il aurait pu être pollué.
Voilà.
La pollution génétique.
La pollution génétique. En fait, c'est simple. En théorie, une population invasive devrait être éradiquée dès le début de son installation parce que sa simple présence va entraîner une modification écologique, même si elle est imperceptible. Et dans de nombreux cas, cette installation ne va pas laisser intacts les écosystèmes.
Et taïmenimeni, taïmoussaïmeni. Même si tu vois,
une musique qui vient d'ailleurs, Many Many de Parnogratz. Alors, pour revenir à notre sujet principal de cette fois-ci, quels autres impacts que ce qui a été évoqué tout à l'heure? Qu'est-ce que tu peux citer?
Alors, nous parlons donc des invasions biologiques, des invasions animales, et parmi ces impacts de la présence d'espèces allochtones, il y a bien sûr la concurrence, la compétition dans les écosystèmes. Alors on peut prendre un exemple, par exemple l'écrevisse, c'est un petit crustacé qui vivait dans nos rivières et qui constitue encore une espèce originale et qui était très appréciée il y a quelques dizaines d'années. Enfant, on se souvient qu'on allait chercher dans les petits ruisseaux des Pyrénées. Il suffisait généralement de laisser traîner ses doigts dans les creux, près des pierreries. Et puis là, on pouvait en capturer quelques-uns que de temps en temps, on pouvait déguster le soir.
Effectivement, oui. Maintenant, je n'en vois plus beaucoup.
T'as dû faire ça en Bretagne, toi aussi, non ? Chercher des écrevisses,
non ? Oui, tout à fait.
Moi, j'ai fait ça, en tout cas, dans les Pyrénées. Et je me souviens qu'avec ma grand-mère, c'était bien rigolo d'en ramener au bout des doigts, comme cela. Alors, évidemment, ce qui est intéressant dans l'écrevisse, d'abord, c'est de voir comment ça s'est passé dans un pays bizarre, l'Irlande. C'est un pays bizarre parce que dans ce pays, il y a toujours eu des problèmes, on le sait. Et notamment, il y a eu notamment donc une tentative pour inscrire une faune protégée. Et dans cette faune protégée, ils avaient installé un écrevisse particulier, l'écrevisse dit Ostropotamobius palipes, qui était donc une rareté insulaire. Alors l'Irlande avait une espèce autochtone qui venait donc de temps immémoriaux, c'était sympathique. Le problème, c'est que biologiquement, on peut quand même se demander comment une écrevisse avait-elle pu venir dans une île qui est quand même située relativement loin et qui a été isolée même au cours des glaciations. En fait, on s'est vite rendu compte que cette espèce s'était installée près des monastères. Ah, c'est vrai que...
Diantre, qu'est-ce à dire ?
Il est vrai qu'on est en Irlande, et donc à chaque monastère irlandais, ou presque, on avait sa petite population d'écrevisses. Et ce qui était surprenant, c'est qu'il n'y avait rien autour. Eh bien, on a très vite compris que c'était en fait des moines qui avaient transporté cette écrevisse pendant toute leur colonisation de l'Irlande, notamment à partir du Haut Moyen-Âge. Et tous les écrevisses d'Irlande viennent d'une seule population, celle du Limousin, en France.
Ah, tiens, voilà. Ça c'est étonnant.
Donc on voit que des fois, l'arrivée d'une espèce est tout à fait étrangère. Bon, là, c'est l'installation. En fait, pour l'instant, pas de concurrence, pas de problème. D'ailleurs, il existe en France des populations naturelles, dites de l'écrevisse à pattes rouges, Astacus astacus, un petit animal assez tolérant qu'on peut trouver même dans des rivières un peu lentes.
Oui, alors pour l'auditeur qui nous écoute, se rappeler qu'Astacus astacus, le nom latin, à chaque fois, Thierry a une tendance à bien sûr resituer le nom de l'espèce en tant que scientifique. C'est comme ça qu'on le reconnaît aussi. Voilà. Ne vous étonnez pas.
Et Astacus, c'est donc celui qui est à pattes rouges. Parce qu'il y a celui qui est à pattes blanches, l'Ostropotamobus palipes. Et celui qui est à pattes blanches, il est beaucoup plus délicat. Il exige des ruisseaux plus rapides, des torrents beaucoup moins pollués. Enfin, il existe encore une autre écrevisse, l'écrevisse dite à pinte grêle. C'est Astacus leptodactylus.
N'est-ce pas ?
Et celui-là réside dans les étangs. C'est principalement celui-là qui sert en général à être consommé, celui qu'on mange le plus souvent actuellement. Mais celui-là date du Haut Moyen-Âge. Et en fait, il n'est pas du tout de France. Il était introduit à partir d'animaux qui vivaient dans la mer Noire, donc assez loin d'ici. Et on l'a installé parce qu'il était très très tolérant dans les étangs. Et donc ça permettait d'avoir un petit surcroît d'activité pour les paysans qui possédaient un petit étang et qui pouvaient de temps en temps, notamment au moment de Noël, se faire un bon plat d'écrevisses. Mais voilà, vers 1890, dans les rivières, une autre écrevisse est intervenue. C'était une américaine. L'Orctonectes limosus. Et celui-là se nourrit de toutes sortes de débris organiques et des jeunes crustacés. Et donc, il a entraîné une chute dramatique des populations françaises. Car notre écrevisse américaine s'installe volontiers dans les parties les plus stables des cours d'eau. Mais surtout, elle transporte avec elle la peste des écrevisses.
Allons bon, qu'est-ce ?
Et elle ne le fait pas à reculons. Elle est accoutumée à cette peste des écrevisses parce que c'est un petit champignon en fait. Mais évidemment, elle la transmet à nos écrevisses françaises qui, elles, ne sont pas du tout immunisées.
Ah, et voilà le danger.
Cette écrevisse américaine est donc le vecteur de la maladie, qui est un champignon en fait, de type omicète, mais ça vous en fichez un peu. En tout cas, c'est l'agent dit responsable de la peste des écrevisses. Alors ça a été dramatique, mais ça ne s'est pas arrêté là. Car ça, c'était dans les années 1890-1940. Donc, les populations d'écrevisses européennes, notamment en France, ont subi une chute dramatique. Et puis voilà que dès les années 1980, d'autres espèces américaines ont envahi les zones de marais où il n'y avait encore personne. C'est notamment le cas de Procamburus clarki, de Passifascatus lemnius sculus, par exemple. Et là, ces écrevisses nouvelles ont créé une dynamique très invasive, très rapidement, de prolifération et qui a concurrencé la faune locale, sans qu'on sache très bien comment faire pour réduire ces espèces-là. Alors la loutre, le blaireau, les hermines, tout ça se sont mis à manger ce type d'écrevisses, mais leur dynamique explosive a été telle qu'il y a eu des impacts importants sur la faune française, et surtout, du coup, ça a beaucoup désintéressé les gens sur les populations d'écrevisses autochtones, alors qu'on tentait de fabriquer des maisons d'écrevisses, on tentait d'expliquer à quel point c'était sympathique d'avoir ces petits animaux dans nos rivières. Évidemment, ces grandes espèces invasives qu'il y avait partout ont fait croire à tout le monde que les écrevisses étaient finalement communes et que plutôt qu'elles posaient plus de problèmes qu'elles ne résolvaient de solutions. Voilà. Alors en 2012, selon le ministère, il y avait déjà plus de 2000 espèces exotiques à caractère invasif en France, et toutes ces espèces invasives présentaient donc cet impact de compétition directe ou indirecte avec les espèces autochtones. Alors on a parlé tout à l'heure du wison américain, par exemple, qui s'était évadé des élevages de fourrures et qui a fait souche en Bretagne, qui a petit à petit envahi une grande partie de l'ouest de la France et qui peut concurrencer le wison d'Europe. En fait, le wison d'Europe était déjà très rare, donc il l'a concurrencé parce qu'il y avait de la place aussi, mais n'empêche que l'impact ne peut pas aider, évidemment, le wison d'Europe à revenir, puisque la place est prise maintenant par le wison américain. Donc c'est un petit animal qu'on peut voir, hein, même de jour, parfois sur les rivières bretonnes. La même chose se passe avec la tortue de Floride, qui va concurrencer toutes les sortes de tortues, notamment la cistude d'Europe, qui était de la faune autochtone. Et puis on a des problèmes pires avec une espèce comme la grenouille taureau, qui vient d'Amérique du Nord. On l'appelait aussi le waron-waron, hein, c'est Lithobates castebenius. Waron-waron, c'est un mot iroquois.
Oui, c'est tout
un... Voilà, un mot iroquois d'accord. Qu'on a chez nous, qui imite évidemment waron-waron, ça imite le cri de la grenouille. Voilà. Et là, ces populations de grenouilles-là font des ravages dans les populations de nos grenouilles à nous, parce que c'est une grenouille géante, énorme, et qui est capable évidemment de concurrencer toutes les espèces. Elle bouleverse les écosystèmes naturels et elle menace d'une manière incontestable toute la faune des zones humides. Alors par contre là, on sait très bien comment elle s'est installée cette espèce, la grenouille taureau. C'est en 1968, en Gironde, un monsieur qui était un aviateur, Armand Lotti, a rapporté d'Amérique du Nord une dizaine d'individus, il les a mis dans son bassin d'ornementation, et ces individus se sont reproduits, puis se sont déplacés, et ils ont colonisé petit à petit tous les points d'eau adjacents. Alors la taille de la population a considérablement augmenté, et l'espèce s'est étendue sur de nombreux sites en Aquitaine à toute vitesse. Alors, il faut bien voir que l'éradication de cette espèce n'est sûrement pas pour demain, car la grenouille taureau continue très 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 largement sa progression.
Monsieur le juge, que l'on me juge sans toute sévérité, car sur mon âme, ce qui fit le drame, c'est la fatalité. Je suis un vaurien, oui, je le sais bien, mais tout de même, jamais je n'aurais fait ce qui mène ici sans ce chat maudit. Un chat qui miaule, je vous jure que ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. Son cri s'élance tel une démence dans le grand silence des nuits. Un chat qui miaule, c'est presque un symbole de la mort qui frôle la peau. Comme un étau qui vous prendrait le cœur, on a peur. Après l'étude des habitudes du Richard de Neuilly, par la fenêtre, v'là que je pénètre juste devant son lit. Dans le halo de mon blanc falot, j'aperçois le magot. Sous le traversin, j'avance la main, quand sur le chemin. Ce chat qui miaule, je vous jure que ça fait drôle quand on cambriole sans bruit. Son cri s'élance tel une démence dans le grand silence des nuits. Un chat qui miaule, c'est comme un symbole de la mort qui frôle la peau. Comme un étau qui vous prendrait le cœur, j'ai eu peur. Le cri ne cesse, le vieux se dresse comme dans un cauchemar. La gorge ronfle, ses veines se gonflent, il me fixe hagard. Son regard fouille mes idées qui grouillent dans ma cervelle en feu. Et tout à coup, fermant les yeux, j'ai serré son cou. On cabriole, notre lutte est folle et ce chat qui miaule plus fort. Son cri s'élance, trouant le silence, crispant ma démence de mort. Dans ma caboche, sa clameur ricoche et mes doigts s'approchent têtus. Quand le chat s'est tu, j'étais devenu soudain assassin. Monsieur le juge, que l'on me juge sans trop de sévérité, car verse sur mon âme qui fit le drame. C'est la fatalité.
Vous écoutiez Fréhel, La peur. Vous êtes, nous sommes sur Radio Libertaire 89.4 et vous écoutez Science en Liberté, une émission sur et pour les aventuriers de la cervelle. Et nous allons parler maintenant d'une histoire de chat, comme Fréhel nous l'a montré.
Oui, tout à fait. Fréhel avait peur des chats. Fréhel vient d'en tuer un, la pauvre, car les chats ne sont pas n'importe quoi. Regardons un autre impact des espèces invasives, celui de la prédation. Alors pour cela, il faut partir très très loin, sur l'île Stephen. L'île Stephen est un petit caillou rocheux, à peine de 2 km², qui est placé quelque part au-delà de la Nouvelle-Zélande. En 1894, un monsieur qui s'appelle Tibbles Yarl s'installa comme gardien de phare sur cette île, qui abritait déjà une petite faune indigène que personne quasiment ne connaissait à cette époque. Comme notre monsieur Lial s'ennuyait très ferme, eh bien il a regardé un peu ce que faisait son chat. Et son chat, unique habitant domestique de ce rocher, lui apporta un jour un drôle de petit oiseau bizarre, apparemment incapable de voler. Quelques jours plus tard, notre cher ami Lial disposait de plusieurs de ces petits oiseaux que son chat tuait quotidiennement, et qui lui apportait pour lui montrer. Et donc Lial a pu apporter la description de cet oiseau. Il s'agissait d'un troglodyte aptère absolument inconnu de la science, le Xenicus liali. On lui a même donné le nom de Lial. Les ornithologues vont se passionner pour cet oiseau si petit et qui semblait n'exister que sur cette île du bout du monde. Mais voilà, 6 ans plus tard, le chat du gardien de phare n'apportait plus du tout de petits troglodytes, car il n'y avait plus de petits troglodytes aptères sur l'île Stéphane.
Oh, bah c'est triste.
Le chat les avait tous tués. Le gouvernement suggéra alors d'interdire le chat sur les îles. Mais c'était un peu tard, l'affaire était faite. On voit ici qu'avec un seul chat introduit, un seul individu introduit, une espèce entière pouvait disparaître. Alors certes, elle était un peu fragile, mais tout de même.
Mais il y a d'autres endroits ailleurs, les chats ont le même impact
hein. Alors oui, les chats se sont installés, ou on a installé se sont installés sous forme dites de population férale. Alors on parle de chats en population férale pour les différencier de ce qu'on appelle le chat sauvage, qui lui est une vraie espèce différente du chat domestique. Le chat, un animal domestique retourné à l'état sauvage, installe une population dite férale. Et les chats ont installé une population férale sur les îles Kerguelen, par exemple. Alors là, ça a menacé terriblement les oiseaux marins, qui connaissaient évidemment rien des prédateurs terrestres, et notamment ce sont les pétrels, les grandes colonies de pétrels, qui a dramatiquement chuté devant ces chats retenus sauvages. Mais comme les pétrels sont aussi installés sur d'autres îlots, pour l'instant, il y a encore des pétrels autour des Kerguelen. Mais la chose n'est pas plus simple en Europe, hein, puisque même dans des pays qui disposent d'une faune importante, des chercheurs ont étudié les habitudes de chasse de chats domestiques, par exemple. Alors, on a fait pour cela des cadrats expérimentaux qui correspondent à 9 zones urbaines d'1 km². Ces zones urbaines disséminées autour d'une ville en Grande-Bretagne qui s'appelle Reading. Dans cette étude britannique, qui a été publiée dans Nature, les chats domestiques tuaient en moyenne 16 oiseaux, 10 musaraignes et 2 belettes par an. Ce qui, évidemment, ne donne pas beaucoup de meurtres. Il s'agit de moyennes. Il y a des chats qui ne tuent pas et d'autres chats qui tuent beaucoup. Ce qui, pour les 626 chats de l'étude, ça va quand même donner 10 000 oiseaux, 6 000 musaraignes et 1 200 belettes par an. Et tout ça pour une zone qui fait seulement 9 km².
Mais c'est énorme, finalement, l'impact.
Voilà, et c'est ce qu'ont conclu les auteurs qui disent que les chats en liberté tuent entre 1,4 et 3,7 milliards d'oiseaux et entre 6,9 et 20,7 milliards de petits mammifères par an.
Oui, et en plus, ils sont nourris, pour certains, par l'homme.
Alors c'est ça le très très gros problème, parce que ces chats sont en général en très bonne santé, parfaitement capables de bien chasser, ils sont capables d'avoir leur petite gamelle de lait ou leur petite gamelle de nourriture quand ils ont un problème, et donc ils sont toujours en grande forme pour chasser, contrairement à un prédateur. Ils se reproduisent aussi très bien, puisqu'ils ont toujours de la nourriture, et peuvent donc proliférer tranquillement. On estime qu'il y aurait en Europe plus de 100 millions de chats qui sont en général contrôlés plus ou moins par un maître et qu'il y en aurait environ 120 millions qui vivent à l'état féral, c'est-à-dire quasiment libre. La population féline est par exemple de plus de 8 millions de chats domestiques en France et elle continue à augmenter à un rythme de 200 000 chats par an.
Quelle solution peut... Enfin, y a-t-il une possibilité ? On va quand même pas tuer nos chats.
Ah oui, il y a plus d'un million de chats qui sont retournés à l'état sauvage, par exemple. Pour donner une petite idée, on estime qu'à Nantes, il y a à peu près 20 fouines sauvages. Alors la fouine, c'est un petit carnivore sauvage très commun, c'est probablement le plus commun des petits carnivores sauvages. Donc il y en a 20 dans la ville de Nantes, mais il y a plus de 8000 à 18 000 chats.
C'est pour ça que tu proposais l'idée d'une clochette, alors, au moins que le prédateur
puisse réduire la prédation. C'est très clair qu'avec les... on reparlera des animaux domestiques, ouais. Parce qu'on fait subir des violences colossales aux animaux domestiques, et en plus, ces animaux-là, eux-mêmes, font subir des grandes violences aux écosystèmes. C'est très compliqué, la question de la domestication. Mais en tout cas, ce sont bien des milliards d'oiseaux qui sont tués tous les ans par les chats. Or, les chats sont des chasseurs bien nourris, qui ne sont pas effarouchés par la présence humaine. Alors que la fouine, elle va se cacher, elle va faire ça pendant les heures pendant lesquelles elle va être tranquille et où elle va pas voir un humain. Les chats, eux, peuvent parfaitement chasser devant des humains, sans avoir peur du tout de cela. Ils vivent également à l'abri, en général à l'abri de mauvaises conditions climatiques. Et leur prédation a en plus un impact considérable sur la faune. Alors ça fait probablement du chat la pire de toutes les espèces invasives du monde. Pourtant, la gestion des chats errants ou des chats qui ont une maison est toujours davantage citée, davantage dictée par leur bien-être plutôt que par leur impact écologique. C'est-à-dire qu'on pense davantage à essayer d'aider ces chats à vivre plutôt que, malheureusement, à essayer de les réduire. Alors, c'est pas simple, hein. C'est pas un problème qui est très, très compliqué. Mais il faut que les personnes qui ont un chat, elles doivent apprendre à contrôler ce prédateur qui est très bien armé, qui est charmant, hein, mais qui est extraordinairement efficace. Évidemment, les marchands, ils incitent toujours les gens à posséder des animaux domestiques. Il faut se souvenir que le marché des animaux domestiques dépasse les 4 milliards d'euros par an.
Mais quand tu parles de contrôler, c'est-à-dire éviter qu'ils sortent au minimum la nuit pour ne pas attaquer les passereaux, c'est... Enfin...
Un chat domestique, vu qu'il est capable d'attaquer des animaux, ne devrait quasiment jamais sortir.
C'est ouais, ça mais le problème. Ça, on dit
et donc, ah ben c'est des tortures, de toute façon. Ouais. Un animal domestique, on le torture, on l'empêche de vivre sa vie naturelle, et on ne peut pas leur laisser vivre leur vie naturelle de chat, parce que les populations de chats sont actuellement beaucoup trop nombreuses. Et donc, si on les laissait sortir, si on les laisse sortir la nuit, si on les laisse sortir le jour, il faut au moins les munir d'éléments qui vont avertir de leur présence les oiseaux, et puis il faut les contrôler. C'est-à-dire qu'il faut les nourrir, il faut les rendre stériles, enfin, il n'y a pas beaucoup d'autres choix. Évidemment, tout ça, ce sont des impacts très violents sur ces pauvres bêtes. Le mieux, c'est de ne pas prendre d'animaux domestiques. Il faut ajouter à l'impact des prédateurs, l'impact d'autres espèces, parce que même les lapins, par exemple, posent des problèmes. Les lapins de l'archipel des Kerguelen ont été débarqués par les Anglais le 5 novembre 1874. Eh bien, à partir de quelques couples de lapins, on pense que c'est 5 ou 6 couples à peu près, ils se sont multipliés. Ils ont eu évidemment un impact très négatif sur la végétation locale des Kerguelen, puisque le tapis de l'Azorel, sur lequel pouvaient s'implanter des espèces comme le chou des Kerguelen, eh bien, ce tapis a complètement disparu, remplacé par une prairie que les lapins ont favorisée. Alors, la végétation originale est encore visible sur certaines îles périphériques qui ne sont pas peuplées par les lapins. Et puis, bien sûr, le lapin a envahi l'Australie. On se souvient de l'énorme problème qu'on posait cette arrivée de ces espèces-là. En tout cas, le chat est loin d'être une espèce inoffensive, même si c'est un animal qui mérite notre attention. C'est un très bon chasseur, mais malheureusement, c'est aussi une espèce invasive.
Sie gefunden, jetzt liegt es bei dir, dich um sie zu kümmern, wer weiß, vielleicht schnurrt sie dafür. Sie kommt und sie geht, wann immer sie will. Sie regelt sich in dein Laken aus weichem Flanell. Sie spielt mit der Beute, zieht nie mit der Meute, sie kuscht nicht. Zählt deine Mäuse, sie mordet sie leise und gründlich. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern. Das weiß sie ganz genau, miau. Sich dein Kissen und thront arrogant. Sie frisst dir die Haare vom Kopf, aber nie aus der Hand. Willst du sie dir greifen, faucht sie, rühr mich nicht an. Hast du absolut keine Zeit für sie, schleicht sie sich an. Sie fällt auf die Pfoten, sie spielt nicht nach Noten, sie sträubt sich. Du kannst sie nicht führen und auch nicht pressieren, sie spurt nicht. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern, das weiß sie ganz genau. Mit der Beute zieht nie mit der Meute, sie kuscht nicht. Sie zählt deine Mäuse, sie mordet sie leise und gründlich. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern, das weiß sie ganz genau. Nein, sie wird dir nie gehören, doch du streichelst sie so gern.
C'était Annette Louisiane, dit Cadz, et nous revoilà sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, et dans une émission qui n'a plus peur de rien, pas même des chats. Alors nous en sommes maintenant à la fameuse recherche du mois. Et ce mois-ci, nous allons nous attarder sur quelques espèces invasives, paradoxales et étonnantes. Il faut savoir quand même qu'il y a donc environ 12 000 espèces invasives qui circulent actuellement en France. C'était le dernier chiffre du ministère. Et que ça coûterait un minimum de 12 millions d'euros tous les ans pour gestion de ces espèces. Mmh, oui. Mmh. Et c'est sûrement très très sous-estimé, qui plus est. Alors parlons par exemple d'espèces intéressantes comme l'écureuil gris américain. Voilà, l'écureuil gris américain, vous allez me dire, il vit en Amérique, qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh bien non, il est en France, il est très présent en Grande-Bretagne aussi, et c'est une espèce qui, pour l'instant, se véhicule beaucoup autour des parcs. Alors c'est un animal intéressant parce qu'il est gentil, il est très sociable, il vient voir les humains, il n'est pas très vilain, mais il est en train de donner toutes ses épidémies à notre écureuil roux européen, et notre écureuil roux européen est en grand, grand danger en France. S'il n'y avait que l'écureuil gris américain, ça passerait. Mais on a également le fameux tamia rayé du Canada, qu'on appelle aussi l'écureuil de Corée. Alors, parce qu'en fait, c'est une espèce qui vit principalement dans l'est du continent américain. Alors, c'est un écureuil forestier qui vit au sol et qui creuse ses galeries au sol. Mais ce petit écureuil, évidemment, a tendance à petit à petit coloniser les milieux naturels et à être présent dans nos forêts. On voit ainsi qu'il y a quand même pas mal d'espèces qui se promènent chez nous. Alors, on a également des petits rongeurs de Syrie, des petits rongeurs de Sibérie. On a bien sûr des oiseaux qui viennent d'ailleurs. Par exemple, je vous le donne en mille, le plus grand ibis sacré, le grand ibis sacré d'Égypte, qui a quasiment disparu en Égypte, eh bien, est assez courant dans l'ouest de la France. L'ibis sacré a été en effet relâché par un parc zoologique qui acceptait que ces oiseaux se promènent. Et donc à partir de ce parc zoologique, pas mal de couples ont fait souche et se sont installés. Alors c'est un très bel oiseau, hein, l'ibis sacré, un bel oiseau noir et blanc, qui mange principalement des espèces, des larves en fait d'insectes qui vivent dans le sol et qui sont un peu délaissées par les autres. Il y a actuellement une bataille pour savoir si c'est vraiment une espèce invasive. Alors, du point de vue de la dynamique, il est présent, il ne devrait pas être là. Du point de vue de sa nourriture, est-ce qu'il est vraiment en impact? On ne sait pas. On a vu, en tout cas, des ibis sacrés tuer d'autres oiseaux et par conséquent concurrencer fortement les espèces présentes. Et Siona, sais-tu quelle est la prochaine espèce invasive qu'on aura en France?
Alors là, je donne ma langue au chat.
Voilà, il y en a sûrement plusieurs, hein. Je te simplifiais pourtant la tâche, entre les moules rayées et bien d'autres. En tout cas, je pense que l'une des prochaines sera le deck du Chili. Le deck du Chili, comme son nom l'indique, n'a pas grand-chose à voir chez nous. C'est un petit rongeur qui se trouve sur le versant occidental des Andes. Et ce qu'il a de remarquable, ce deck du Chili, c'est qu'il habite à 1200 mètres.
Tu peux dire rapidement à quoi ça ressemble?
Ça ressemble à un petit rat d'une centaine de grammes à peu près. Il habite donc à une altitude de 1200 mètres dans des steppes et des plateaux et sur une zone mais extrêmement petite. Il est vraiment présent sur un tout petit secteur au nord du Chili. Et donc il est rare. Et pourtant cette espèce se reproduit très bien en captivité. Et comme il n'est pas inscrit dans les dans les CITES officiels, eh bien, c'est les articles de loi qui permettent le transfert et le marchandage des animaux. Il faut se rappeler que pour l'humain actuellement, les animaux sont des biens qu'on peut acheter, vendre un peu comme on veut. Et donc, il n'est pas interdit, il n'est pas limité dans les achats et dans la vente. Et donc, cet animal est en vente un peu partout. On le trouve actuellement de plus en plus
terrible.
Dans les animaleries. Mmh. Et comme c'est un animal qui ne peut pas vivre tout seul, en général, il est vendu en couple, ce qui est une idiotie, parce qu'il vit en clans qui sont formés de chaque individu, enfin un mâle avec deux ou trois femelles, mais les clans sont regroupés en des colonies importantes, généralement de plus d'une centaine d'individus. Et donc les individus à deux ou à trois, et la seule chose qu'ils ont envie de faire, c'est très vite se reproduire pour être 100. Donc on voit à quel point ça va vite poser des problèmes. En général, ce sont des petits rongeurs qui affectionnent plutôt les terrains avec des arbrisseaux et ils creusent dans le sol un système complexe de terriers dans lequel on n'ira pas les chercher. Hein, quand ils sont dans leur terrier, ils sont bien tranquilles. N'oubliez pas qu'ils vivent en montagne d'habitude et donc dans des éléments rocheux. Là, s'il y a beaucoup de terres meubles, ben, ils vont pouvoir faire des terriers très importants. Comme c'est aussi un montagnard, il mange un peu n'importe quoi et notamment il est capable de grignoter à peu près toutes les plantes qui poussent par chez nous. Donc il faut s'attendre à un véritable problème avec le deck du Chili quand il commencera à s'installer. Malheureusement, il continue toujours à être vendu.
Nous en reparlerons dans une dizaine d'années, selon l'expansion, la dynamique.
À moins évidemment que nous ayons réussi à nous tromper et que finalement, le deck du Chili ne nous posera pas plus de problèmes que n'ont posé de problèmes les orangers, par exemple.
J'ai fait tourner une orange tout autour d'une bougie et j'ai vu sur l'orange le jour succéder à la nuit. Sur le pôle nord de l'orange, un puceron était blotti. Que faire sur une orange quand on est tout seul, sans amis? Imagine la terre avec un seul habitant. Il ne saurait que faire passer le temps. Alors j'ai pris sur l'orange le puceron égaré. J'ai mangé mon orange et j'ai mis le puceron sur un rosier.
Vous écoutez Ricette Barrier, l'orange et le puceron. Donc maintenant, si tu peux nous développer un peu les conséquences évolutives de tout cela.
Alors notamment, évidemment, toute la modification des écosystèmes que ça peut entraîner. On va se poser cette question particulière. Car plus une espèce est opportuniste et peu exigeante, plus son installation est facilitée. Ainsi, les rats ont été transportés par les navires, hein, le rat noir, par exemple, qui s'est évadé de tous les bateaux en passant sur des cordages et tout ça pour rejoindre tous les continents. Maintenant, il y a même des rats en Antarctique. Alors, le rat a été une source incroyable de problèmes, mettant en danger les populations de pas mal d'endroits, par exemple les populations d'ornithorynques en Australie. Le rat s'attaque aussi à des oiseaux qui nichent à terre et sa présence entraîne une dispersion des animaux le plus loin possible de l'endroit où il est installé, mais aussi une dispersion de toutes les maladies qu'il transporte.
Donc ainsi, la simple présence d'une espèce peut modifier tout un écosystème.
C'est un peu le gros problème, quoi. Génétiquement, d'abord, les écosystèmes peuvent être modifiés. Par exemple, les espèces sont en danger, alors on a réintroduit des espèces pour améliorer l'environnement. On a par exemple replanté des chênes. Alors, c'est déjà une meilleure idée que de replanter du pin Douglas, sauf que 80% des chênes replantés proviennent de souches génétiques d'Europe de l'Est.
Ah.
De la même manière que les lièvres, par exemple en France, ont quasiment disparu. Tous les lièvres que vous voyez en France sont des lièvres qui possèdent uniquement des gènes d'Europe de l'Est. Et puis il y a tout le problème génétique, Une étude, par exemple, dans le Montana, a montré que les oiseaux déployaient un répertoire de chants beaucoup plus restreint quand ils étaient dans des forêts qui étaient infestées par des plantes exotiques. Les oiseaux sont moins nombreux, il y a moins d'espèces, ils sont plus jeunes, moins expérimentés quand ils sont dans les sites envahis par ces plantes, et en même temps, les plantes invasives vont donc réduire même la diversité de leurs chants. Alors contradictoirement, on pourrait penser que si au contraire les écosystèmes sont en bon état et que la biodiversité est forte, l'installation d'une espèce invasive va être limitée. Sauf que d'un point de vue évolutif, c'est tout à fait autre chose que nous a révélé l'évolution de ces espèces.
Donc là, tu me sembles que tu as une étude de cas particulière, puisque tu as étudié le ragondin sur le lac de Grandlieu.
Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'installation d'une espèce exotique va révéler quelque chose d'inouï. En effet, il y a le ragondin, par exemple. Alors, je l'ai pas mal étudié à Grandlieu, comme tu le dis. Il faut se rappeler que c'est un gros rongeur. Il provient d'Argentine. Et son prédateur naturel, c'est l'alligator.
Ah, l'alligator ?
Il n'y en a pas beaucoup en France d'alligator, alors qu'il y a beaucoup de ragondins. Il a été relâché en France par un médecin qui voulait voir ces gros rongeurs dans le marais, de manière à ce qu'ils fassent ce qu'on appelle le « il faut garder le marais, il faut garder les... »
Il entretenait
la végétation, voilà. Sauf que l'animal a fait souche, et puis il a trouvé de la place entre le castor et le campagnol. C'est-à-dire qu'il existait une niche écologique libre, et surtout sans alligator.
Donc un espace de libre, finalement, pour que l'espace se développe.
Et c'est ça qui est tout à fait étonnant. Parce que selon le néo-darwinisme, une espèce est toujours en présence quand elle est en concurrence avec les autres espèces. Et chacune des espèces s'installe dans sa niche écologique propre. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion compétitive. Et c'est cette exclusion compétitive qui est censée fonder l'écologie des espèces. Par en fait, qu'est-ce que ça veut dire que les niches seraient pas occupées ? Normalement, toutes les niches écologiques sont censées être occupées, puisque la survie fait rage dans la nature, on se souvient de ça avec Darwin. Et donc, toutes les niches sont censées être occupées pour que les espèces puissent petit à petit se casser. S'il y a de l'espace, eh bien, une nouvelle espèce devrait s'implanter. Et c'est ainsi qu'il y a la lutte pour la vie. Or là, voilà qu'on s'aperçoit qu'au lieu de cette place défendue pour chaque espèce avec une concurrence qui fait rage, des individus venus d'ailleurs vont quand même trouver de la place. Alors ça veut donc dire que les écosystèmes sont très loin d'être saturés. En fait, plus on s'aperçoit de la présence des espèces invasives, plus on est obligé de considérer que les espèces envahissantes trouvent une nouvelle niche. S'il y a une nouvelle niche, c'est donc que la niche, soit elle n'existait pas avant, ou soit que les niches écologiques n'étaient pas surchargées, qu'elles n'étaient pas saturées. Ou alors, hypothèse évidemment complètement iconoclaste, que le néo-darwinisme se tromperait et que l'exclusion compétitive n'existerait pas. Car chaque espèce est peut-être capable de construire sa niche et de se placer lui-même dans l'environnement. Alors on reparlera de ça, de ces concepts de construction de niche, de ces concepts de concurrence, parce qu'on verra que c'est beaucoup plus complexe que l'on peut le dire en quelques minutes, et surtout beaucoup plus intéressant. Mais on voit bien qu'avec la présence des espèces invasives, y compris la présence du ragondin, qui est capable donc de ne pas prendre la place du castor, pas prendre la place du campagnol aquatique, mais de trouver sa place à lui, eh bien tout ça, ça nous décrit une écologie très différente de ce qu'on pouvait supposer, une évolution des flores et des faunes qui est tout à fait extraordinaire. Voilà que des animaux et des plantes sont acteurs de leur évolution, qu'ils vont construire leur propre niche écologique eux-mêmes, et donc ça veut dire que le concept de niche écologique mérite d'être totalement revue. Alors nous reparlerons de ça, car évidemment les niches écologiques nous entraînent dans des ports étrangers.
Thank you. kay mena mesko kul poitan leg mena korak yeno
C'était Talamania Xena, un rebetiko, les ports étrangers. Donc, pour revenir à notre histoire précédente, le Ragondin n'a pas pris la place, il n'a pris la place de personne en fait.
Oui, en fait, c'est pas tellement le problème de la concurrence qui se pose toujours, c'est plutôt le problème de la banalisation des faunes. Par exemple, parmi les espèces introduites, on a la crépidule, qui est un exemple concret de prolifération. Alors la crépidule, c'est un petit escargot, un gastéropode d'Amérique du Nord, un escargot marin, qui a été introduit accidentellement en Europe avec les importations d'huîtres. La prédation par ce coquillage, par la crépidule, des coquillages, peut provoquer une banalisation totalement des fonds qu'elle colonise. C'est-à-dire qu'on va retrouver des espèces très communes, celles qui vont échapper à la crépidule, toutes les espèces rares étant le plus souvent disparues sous l'effet de cette présence. Les espèces invasives vont en effet présenter ce qu'on appelle une faible valence écologique, c'est-à-dire une grande capacité d'adaptation. Ce sont souvent, pour être invasives, des animaux peu exigeants, aptes à proliférer dans ce nouveau milieu. Un exemple tout court, c'est par exemple le petit crabe vert. Alors le petit crabe vert, Carcinus menace, c'est que les pêcheurs à pied connaissent bien sur nos côtes, hein, il se réfugie dans les rochers à marée basse, et qui n'a pas essayé à un moment donné de déranger ce petit crabe discret et assez peu exigeant qu'on trouve partout. Eh bien c'est pourtant un crabe qui présente une très grande menace invasive depuis qu'il a atteint les côtes argentines et les côtes brésiliennes, où là il prolifère et on nous dit qu'il occasionne de nombreux dégâts sur la faune locale. C'est un prédateur vorace qui va générer un impact important sur toutes les espèces épibiotiques et bathiques, notamment donc les moules, les mollusques, les petits crustacés. Alors on pense que le crabe vert est un prédateur d'au moins 158 genres de mollusques et il a été décrit comme responsable de la diminution de la diversité. Là, c'est pas tellement par la concurrence, c'est tout simplement parce qu'il exerce une compétition sur les espèces indigènes qui vont être obligées de se disperser, mais il a aussi une prédation importante, et notamment sur les espèces rares ou menacées. Il a donc saisi une niche écologique qui n'était pas totalement libre, et là, il rase tout ce qu'il peut, et donc il est invasif au Japon, en Australie, en Afrique du Sud et au Canada, alors que chez nous, c'était un petit crabe dont tout le monde se délaissait un peu. Alors c'est ça qu'on appelle la banalisation des faunes. La banalisation des faunes, c'est le fait que tous les animaux du monde vont être un peu les mêmes. Un simple cargo transporte jusqu'à une centaine d'espèces exotiques dans ses cales. Et bien sûr, au moindre nettoyage de ses soutes, ces 100 espèces exotiques vont se retrouver libérées dans le port qu'il a atteint. Donc on voit que la banalisation des faunes est une pollution absolument extraordinaire de la planète. Une pollution étrange, mais extraordinaire. Cette pollution va passer presque inaperçue, puisque ça se passe partout dans le monde, et que seules les espèces les plus opportunistes vont être favorisées. Ce sont ces espèces capables de s'installer partout qui vont être présentes et évidemment vont faire disparaître les espèces autochtones qui sont souvent localement plus secrètes et probablement déjà plus menacées. Donc dans le monde entier, on va avoir des rats, on va avoir des ragondins, on va avoir de la renouée du Japon, des wallabies de Bennett, des lapins, de la jussie, de la jacinthe d'eau et des chênes allemands. On va avoir tout le temps la même faune, la même flore un peu partout. Et ça va être la même, dominante dans toutes les zones. Plus ces zones vont être anthropisé, proche de l'humain, on va avoir une faune citadine en quelque sorte, y compris dans le monde rural. une espèce de faune de grands ensembles industriels ou une faune de terrain vague. On a vraiment maintenant atteint les limites de ce que pouvait vraiment supporter notre nature. L'originalité et la pertinence de la pensée écologique pouvaient laisser espérer un souffle nouveau dans le concert classique de la contestation politique du système. Mais très vite, l'écologie s'est révélée comme une simple continuité de la politique, moins industrialisée, certes plus durable, mais toujours dans le même état d'esprit de la défense du commerce. En outre, l'état de bouillie théorique des conceptions de l'écologie politique a surpris plus d'un libertaire, constatant rapidement comment l'écologie constituait une mise au service de ses pratiques durables pour allier les intérêts politiques et celles des intérêts du capital. On parle lutte contre la destruction des écosystèmes, et ici nous avons parlé des espèces invasives. Ainsi, le wison d'Amérique est une bonne illustration de ces manières. On a d'abord importé des milliers de wisons qu'on fait vivre dans des cages trop étroites, dans des conditions épouvantables, avant de les électrocuter pour obtenir la matière première, cette fourrure qui plaît tant à la mode française. Ces élevages pelletiers ont été subventionnés, aidés, mais la plupart ont quand même conduit leurs possesseurs à la faillite. Et il fallait de plus en plus de wisons, puisque le cours chutait sans cesse. Des élevages de plus de 25 000 wisons ont été bâtis en Bretagne. Et ensuite, les propriétaires ont cessé ce jeu de dupes, ou bien les tempêtes ont libéré les animaux, d'autres se sont évadés, gagnant toutes les rivières de France. Répétées dans le temps, ces petites introductions ont permis que s'installent des wisons américains, et la seule tempête de 87 a permis l'évasion de 20 000 wisons. Après, la destruction du wison américain a mobilisé des dizaines de millions d'euros, et des dizaines de bonnes volontés, mais toujours pour rien. Pire même, les pauvres wisons exterminés ont pourri sur les tas de fumier, et dans le même temps, la lutte contre eux a conduit d'autres espèces comme le wison d'Europe ou encore le putois à leur quasi-disparition, car les piégeurs ne faisaient pas la différence entre les uns et les autres. Il n'y a plus de wison d'Europe dans l'Ouest, mais il y a toujours du wison d'Amérique. Devant l'apparente volonté d'éradication des espèces étrangères, il persiste une étonnante tolérance du commerce et des échanges. Car pourquoi y a-t-il des espèces invasives ? Voilà la question cachée. C'est évidemment la faute de la politique du commerce. Les espèces invasives suivent les routes commerciales du capitalisme industriel et s'installent dans les zones où on les laisse s'installer, voire même des fois on les dépose pour faire joli dans l'environnement. Les stratégies pour éviter de voir ces problèmes finissent toujours par des pleurs hypocrites, des jolies pleurs écologiques certes, mais rappelez-vous avec quel cynisme les industriels qui ont empoisonné le monde depuis des lustres en viennent maintenant à nous expliquer que leur activité se préoccupe du devenir de nos enfants. Comment croire à cette brusque reconversion des valeurs quand personne n'ignore que le souci de façade n'a d'autre but que de développer de nouveaux bénéfices ? L'économie durable veut simplement faire durer l'économie du capitalisme. On n'a pas à regarder comment le développement marchand a détruit la planète pendant des générations et des générations. Et comment le commerce a aggravé l'exploitation de la planète et l'exploitation des hommes. Les espèces invasives ne sont pas là de leur faute, mais bien à cause de la volonté capitaliste de s'enrichir, de vendre et d'acheter, d'exploiter tout ce qui est possible. Il faut donc s'approcher d'une véritable définition d'un vrai projet libertaire, et voilà, qui est probablement inéluctable.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr. Science Libre au singulier. Nous avons maintenant une page web accueillie sur le site de Trou Noir, l'émission Trou Noir, où vous pourrez retrouver nos émissions et tout un ensemble de commentaires. Enfin, nous avons le plaisir de vous retrouver tous les quatrièmes lundis de chaque mois de 18h à 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et les idéologies qui la parcourent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par
Thierry Laudet.
N'est-ce pas? Et avec la complicité de
Siona
et Monique à Paris.
La musique d'introduction est de Hicham Chahidi. Et nous allons conclure sur Lojo, un groupe angevin, Les Fleurs du Pavé.
Les mangeuses des démons des hommes, loge rue Saint-Denis ou rue de Budapest, près des gares des capitales et des bordels d'autoroutes. Elles sont bulgares ou bien des terres sèches de l'Ouganda, de la jungle de Paris ou venues de Rouen, sur le chemin d'une fausse promesse. Petite fille des îles serrées contre l'oubli et qui danse une valse troublante dans les bois laissés pour l'abandon. Les mangeuses des démons des hommes, loge rue Saint-Denis ou à l'hôtel Octobre, amende 5 minutes du rêve d'un envol. Reines intimes du cortège des pollens d'une autre race virile, elles tiennent chaque jour des colloques sur le boulevard des habitudes. Elles sont de Porto Novo et mettent le vaudou à sa plus rude épreuve. Elles leur parlent de l'enfance, d'une bouteille à la mer. Les mangeuses des démons des hommes, loge rue Saint-Denis ou rue de Budapest, près des comptoirs maritimes et des bordels de fortune. Petite fille à des îles serrées contre l'oubli et qui danse une valse poignante dans les bois laissés pour l'abandon. En faïence fine, elles sont bulgares ou bien des terres sèches de l'Ouganda, de la jungle de Paris ou venues de Rouen, sur le chemin d'une fausse promesse. Les mangeuses des démons des hommes, loge rue Saint-Denis ou à l'hôtel Octobre, amende 5 minutes du rêve d'un homme.